Voilà, je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Cette parole qui a tellement changé de vie, qui a changé la mienne aussi. C'est pour ça que c'est un honneur pour moi de vous apporter cette parole. On va lire quelques versets si vous voulez. On va lire deux textes. On va commencer dans Luc 12, si vous voulez suivre avec moi. Luc 12, à partir du verset 16. Luc 12, à partir du verset 16. Il leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On va lire un deuxième texte, si vous voulez, dans Marc 10. Marc 10. À partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Le premier texte est une parabole que Jésus a donnée, et le deuxième texte est une expérience, une expérience. Et on va plus s'attarder sur le deuxième texte cet après-midi. Nous voyons que c'est un jeune homme, riche, pieux, ayant une vie stable. Il suit les lois, il suit un bon chemin. Mais cet homme avait une question sur son cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est venu se jeter à genoux de Jésus. Donc ça devait brûler en lui. Ce n'était pas seulement une question, peut-être, non, non. Ça brûlait en lui. Comment avoir la vie éternelle ? Et on se pose tous des questions sur ce qu'il y a après la mort, à un moment donné de notre vie. On passe tous par là à se poser des questions. Pourquoi je suis sur la terre ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Est-ce que je vais être bien ? Est-ce que je vais être mal ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ou est-ce que je vais juste disparaître ? On se pose tous cette question. Qu'y a-t-il ? Où va-t-on ? Et ce matin, nous avons entendu, c'est Joël qui nous l'a dit, la folie de croire que cette parole est une fiction. Ou la folie de croire que tout s'est fait par hasard. Que tout est arrivé comme ça d'un coup. La nature, tout. Il faut se poser des questions. Il y a des questions qui sont plus importantes que d'autres. Et c'est là particulièrement. Cet homme ne se demandait pas ce qu'il y avait après la mort. Il s'en doutait parce qu'il demande comment hériter la vie éternelle. Il avait une certaine croyance parce qu'il suivait les commandements. Il avait une vie droite. Donc il avait une certaine croyance. Mais il avait compris qu'il n'y avait pas que ça. Et je suis désolé de vous dire ça cet après-midi. Mais vous pouvez faire autant de bien que vous voulez. Vous pouvez traverser des montagnes pour aller aider des gens perdus. Vous pouvez donner tous vos biens aux pauvres. Ce n'est pas ça qui sauve. Il se jette aux pieds de Jésus. Mais Jésus ne va pas lui répondre tout de suite. D'abord, il va dire « Tu connais les commandements ». C'était pour montrer qu'il y avait quelque chose dans son cœur quand même. Puis après, Jésus va lui donner la réponse. Il te manque une chose. Vous pensez que c'est vendre tous ses biens, les donner aux pauvres? Vous pensez que c'est ça ce qui lui manquait? Vous en pensez quoi? Non, c'est pas ça qui lui manquait. Ce qui lui manquait, c'est dit juste après. Il dit « Viens et suis-moi ». Et le seul moyen d'être sauvé, le seul moyen d'avoir la vie éternelle, c'est suivre Jésus, le suivre chaque jour. Jésus se réjouit de voir des hommes et des femmes, bien sûr, qui font le bien autour d'eux, mais ça ne suffit pas. Ce qui sauve, c'est le suivre. Alors, Jésus, regardant les disciples autour de lui, dira qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de cette parole. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'entendre des choses comme ça. Pourquoi des richesses, avoir de l'argent, pourquoi cela nous empêcherait de rentrer dans le royaume de Dieu? Mais Jésus précise, juste après, celui qui se confie dans les richesses. Et malheureusement, quand on a beaucoup de richesses, on a tendance à se confier dans nos richesses. On pense que si on va perdre quelque chose... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on n'a rien, on est bien, non? Mais si aujourd'hui, on vous donne un lingot d'or, et qu'on vous dit, qu'on vous donne ce soir un lingot d'or, et qu'on vous dit, voilà, vous traversez à pied toute la ville, et vous allez le déposer à la banque. Vous allez bien le cacher. Surtout ne pas le sortir, hein, bien le cacher, le mettre bien enfoui, marcher comme s'il n'y avait rien. De suite, c'est plus stressant, non, vous ne pensez pas? De suite, il y a des inquiétudes, parce qu'on a peur de perdre. Et cet homme, en entendant cela, ce jeune homme, va repartir tout triste. Tout triste parce qu'il pensait que c'était plus simple, c'était plus, je sais pas, plus accessible pour lui. Mais c'était accessible. Mais comme il se confiait dans les richesses, et c'est pour ça que Jésus met ce point-là, fait ressortir ce point-là. Parce que Jésus est content, même si vous êtes riche. Gloire à Dieu, glorifiez le Seigneur si vous avez de l'argent. C'est pas ça qui est important. Mais Jésus connaissait son cœur. Il savait que les richesses, tout ce qu'il y avait dans sa vie, était plus important que la vie éternelle. Et il part tout triste. D'ailleurs, Jésus va parler de cela à un autre endroit. Si vous voulez le lire avec moi, dans Matthieu 16, c'est un texte qu'on trouve dans les trois premiers évangiles. Et on va lire dans Matthieu, si vous voulez bien. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je répète, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus dit ça à ceux qui le suivent, donc ses disciples. Et déjà, que veut dire gagner tout le monde? Gagner tout le monde, ça peut paraître vague. Quand on regarde le texte original en grec, le mot qui est utilisé pour monde, et ça m'a surpris en voyant cela, le mot utilisé pour monde est cosmos. Un mot qu'on connaît bien. Cosmos. Et ce mot cosmos a deux racines. La première racine, c'est celle qui est employée, donc la Terre, l'univers, tout ça. La deuxième, qui est la plus connue, c'est l'ornement ou la parure des cieux. C'est pour ça qu'on dit le cosmos, les étoiles. C'est la parure des cieux. Et quand on comprend cela, la phrase que dit Jésus prend un sens beaucoup plus large. Même si un homme avait le monde, toutes les richesses qu'elle contient, même si toute la parure des cieux, les étoiles lui appartenaient, à quoi cela lui servirait-il s'il perdait son âme ? De suite, ça prend une ampleur plus grande. Hein ? À quoi cela lui servirait-il ? Mais qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que l'âme ? Si on prend la même méthode en regardant le texte original, le texte en grec, l'âme veut dire souffle, souffle de vie. Et ce souffle de vie, il y a seulement l'homme qui l'a. Ça, on le trouve dans la création. On le trouve dans la Genèse. Si vous voulez lire avec moi dans la Genèse, je vous invite à lire la Genèse ce soir, si vous ne connaissez pas. C'est magnifique. Il y a toute la création du monde, la création de l'univers. Je me demande encore pourquoi des personnes se posent des questions. Il y a tout. Tout est marqué. C'est simple. Il suffit d'ouvrir la Bible et lire. Alors on va le faire. On va ouvrir en Genèse 2, si vous voulez bien. À partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante. Avant cela, il y a la création du monde, les étoiles, les animaux. Et dans tout le texte, on retrouve à un seul endroit le souffle de vie. Le souffle de vie. Un animal, quand il meurt, retourne à la terre, de là où il a été pris. Un homme, son corps aussi retourne à la terre. Mais son âme retourne à Dieu, là où elle a été prise. L'âme retourne à Dieu. Et ça a une importance capitale de le savoir. C'est la réponse à ce qu'il y a après la mort. L'âme retourne à Dieu. Dieu a conçu un plan parfait. Il crée l'homme. Il le met dans un méga jardin, qu'on appelle la terre. Il le met pour s'en occuper avec des animaux. C'est un bon plan, non ? Sans souffrance, sans maladie, vivre des jours heureux. Vous ne voulez pas vivre ça, non ? Ouais. Vivre des jours heureux. C'est magnifique, on est d'accord. Mais Dieu est un Dieu juste. Et comme il est un Dieu juste, il n'a pas fait les hommes esclaves. Non, il a fait les hommes libres, libres de faire des choix. Et il va donner seulement un ordre. Vous avez des milliers d'arbres devant vous, mais il y en a un seul où vous ne devez pas le manger. Manger les fruits de l'arbre. C'était simple, on est d'accord. C'est quand même assez simple. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Dites à un enfant, tu as plein de jouets, mais celui-là, tu ne le touches pas. Du moment où vous allez tourner la tête, il va y mettre la main, c'est sûr. C'est l'interdit. Et l'homme, malheureusement, a désobéi. L'être humain a désobéi. Et c'est notre histoire à tous. Et quand on voit au moment où il a désobéi, c'est le diable qui s'approche de l'homme et de la femme et qui dit, mais vous avez le droit de manger de tous les arbres ? Alors ils disent, oui, tous les arbres, à part celui-là. Ah, pourquoi ? Si on en mange, on meurt. Et le diable est malin. Il regarde la femme, il dit, non, vous n'allez pas mourir. Non, c'est pas ça. Mais Dieu, il vous dit ça parce que vous allez être comme lui, comme des dieux. Vous allez être comme des dieux. Depuis le début de la création, le problème est là. Savoir ce qu'on veut faire de cette âme. On veut gagner le monde. Vous serez comme des dieux, vous aurez les parures des cieux. Ça sera pour vous. Et malheureusement, l'homme est tombé et a mangé du fruit. Il a mangé du fruit et en mangeant de ce fruit, a désobéi à Dieu. Et on le connaît dans notre société, il y a des juges, il y a des tribunaux. Et il a fallu passer devant le tribunal. Pourquoi nous, hommes, devons passer devant des tribunaux quand on vole, quand on fait quelque chose de mal? Et Dieu, qui est un Dieu juste, ne pourrait pas condamner le péché, la désobéissance? Pourquoi lui, il n'aurait pas le droit et nous, on aurait le droit? Mais lui, c'est un Dieu juste. Et parce que Dieu est un Dieu juste, il a conçu un plan parfait, un plan magnifique, le plan du salut. Le plan du salut, c'est simple. Notre frère l'a cité tout à l'heure, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Avant la création, Dieu savait que l'homme tomberait. Mais parce qu'il nous aime, il a créé le moyen de sortir du péché. Et vous avez vu dans ce verset qu'il ne périsse point. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez bien sûr spirituellement. Parce que la mort, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est l'enfer. L'enfer était réservé au diable. Il était réservé au diable et ses anges. Mais l'homme s'y est jeté en se condamnant lui-même. Mais ce plan parfait est pour contrer le fait de mourir éternellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, ne connaisse point la mort éternelle. Merci Seigneur, parce qu'il est venu sur cette terre, ce Jésus. Dieu fait homme pour mourir à notre place. Et on l'a entendu tout à l'heure dans les chants, dans le témoignage. Il a souffert. Il a pris nos péchés, nos meurtrissures. Il a pris nos maladies. Il a rétabli toutes choses comme elles étaient prévues au départ. Et Jésus, il est venu pour toi, pour moi. Il est venu pour chacun de nous, et la plupart d'entre nous l'avons rencontré. La plupart d'entre nous a été changé par ce sacrifice parfait, cet agneau, sans faute, sans tache. Et merci Seigneur pour sa grâce, d'avoir donné sa vie pour nous. Et il est ressuscité. Il est revenu à la vie, 3 jours après. Merci Seigneur. Amen. Quelle grâce. Et le plan est simple. Le plan est simple. Il est accessible à tous. Et cet homme, ce jeune homme qui était riche, ne l'avait pas compris. Il avait compris qu'il fallait faire du bien. Il avait compris tellement de choses. Il n'avait pas compris qu'il suffisait de suivre Jésus. Il n'y a pas besoin de faire le tour du monde, il n'y a pas besoin de faire des sacrifices énormes. Non, seulement suivre Jésus. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On va revenir au premier verset que nous avons lu au tout début. Dans Luc 12, verset 16. Cette fameuse parabole de cet homme qui était riche, il avait beaucoup de biens. Et cet homme disait, que ferais-je ? Que ferais-je ? Et peut-être tu es là et tu as des projets, tu as beaucoup de choses dans ta vie. Et tu te dis, mais que ferais-je ? J'ai un bon boulot, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai tellement de choses. Que ferais-je de tout ça ? Et tu t'imagines déjà tout ce que tu pourras faire avec tout ton argent, ce que tu vas gagner, ton boulot, tout ça. Tu t'imagines déjà un plan pour avancer dans le travail, aller encore plus haut. Mais jusqu'où ? Jusqu'aux parures des cieux. Tu peux amasser dans le monde. Mais tu peux avoir autant d'or que tu veux, autant d'argent que tu veux, autant de trésors que tu veux. Un jour, il y aura toujours un voleur pour venir te le voler. Et on le voit. Il y en a, ils se barricadent. Ils mettent des coffres, des murs en béton armé. C'est ça la vie. C'est ça qui est important. Un jour, tu le perdras. Si ce n'est pas le voleur, ce sera la crise. Et combien ont perdu ? Combien avaient et ont perdu ? Alors cet après-midi, tu te dis, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, mon âme. Tu as amassé des trésors, et peut-être c'est ton travail. Tu te dis, j'ai le temps. J'ai mon boulot à m'occuper, j'ai ma vie à m'occuper, ma famille à m'occuper. J'ai tellement de choses à m'occuper. Mais si cette nuit, comme cet homme dans cette parabole, si cette nuit, Dieu te demandait ton âme, que ça n'arrive pas. Mais mettons-nous à la place de cet homme qui avait amassé beaucoup. Et il est dit qu'il voulait faire des gros greniers. Mais ce n'était pas fait encore, c'était des projets. Et mettons-nous à la place de cet homme. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ton argent, à quoi te sert-il maintenant ? Tu as amassé beaucoup de trésors, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ton âme, où en est ton âme ? L'état de ton âme. As-tu amassé des trésors dans les cieux ? As-tu amassé la vie éternelle ? As-tu la vie éternelle cet après-midi ? J'ai le temps. Moi aussi, je pensais avoir le temps et je pensais être surhumain. Je ne me suis jamais cassé quelque chose. Je me suis très peu ouvert. Je n'ai jamais foulé, rien. Et dans ma jeunesse, je me suis dit, mais il y a un truc bizarre là. Tout le monde s'est au moins cassé quelque chose dans sa vie. Je me suis dit, mais je ne me suis jamais cassé quelque chose, c'est bizarre. Je dis, peut-être que je suis assez dur pour pas avoir un bras cassé. Sincèrement, je vous dis ça, c'est du vécu. Moi, j'étais pas trop sage, on va dire, quand j'étais jeune. Mais un jour, je me rappelle, j'allais avec des amis et je faisais les 400 coups. J'avais pas peur de prendre du danger. Je faisais les 400 coups et on va se baigner quelque part dans une rivière. Et on se baigne, on passe l'après-midi super et tout. Et à un moment, une folie, on décide de descendre une sorte de toboggan et tomber dans une cuvette, quoi, une cuvette d'eau avec de l'eau qui arrivait comme ça. Ça avait l'air pas dangereux, mais d'accord. Et bizarrement, maintenant je me rends compte que Jésus m'a gardé. Bizarrement, on était quatre Et au départ, on était quatre à vouloir le faire. Et au moment où on allait partir, il y en a deux qui ont dit « Non, non, moi, je ne veux pas le faire. » On s'est dit « C'est bizarre, ils ont peur, tout ça. » Alors, bien sûr, ça a jasé dans tous les sens. Et avec un ami, on descend. Et on descend tout content, rigolant et tout. On tombe dans l'eau tout content. Et d'un coup, on a tombé le visage. Parce que quand on est arrivé dans l'eau, il y avait l'eau qui arrivait comme ça et l'eau qui arrivait comme ça. Et ça partait comme ça, sous l'eau, ça partait comme ça. Et quand on est tombé dans l'eau, on a commencé à tourner. Tourner, tourner et s'enfoncer, s'enfoncer. Jusqu'à plus pouvoir sortir la tête de l'eau. À deux, à l'intérieur. Sur un trou, il faisait peut-être 1,50 m. Et d'un coup, j'ai réalisé, là, dans ce trou-là, j'ai réalisé que personne ne sait quand c'est la fin. Personne ne sait l'heure de la fin. Il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment. Des choses qu'on ne s'y attend pas, ça avait l'air gentil, ça avait l'air pas grand-chose. Et ces deux amis qui sont restés là, et gloire à Dieu, je dis vraiment que le Seigneur est bon, et qui nous garde. Et peut-être si tu es là cet après-midi, tu l'as peut-être, t'as peut-être vécu quelque chose de pareil. Mais si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a gardé. Parce que ces deux amis, c'est eux qui sont venus nous sortir. Vous imaginez si on était à quatre dedans. Quatre familles qui auraient perdu un enfant. Un jeune. On ne sait pas, on ne peut pas faire des projets sur le lendemain. Le temps de notre vie est compté, et Dieu sait tout. Et il peut être très long. Il y en a qui dépassent les 100 ans. Et dans ce lieu, il y en a qui dépasseront les 100 ans, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ni le jour ni l'heure où on doit rencontrer notre Dieu. Alors, le plus important, c'est de savoir, que vas-tu faire cet après-midi? Vas-tu te confier dans tes richesses en te disant, j'ai le temps? J'ai le temps, j'ai tellement de choses à faire, j'ai le temps. Où vas-tu t'approcher de Dieu et te dire, je veux d'abord amasser ma vie éternelle, je veux avoir la vie éternelle avant, amasser des trésors dans le ciel avant, parce que c'est ça la priorité. Or, si vous voulez, on va fermer nos yeux et baisser nos fronts. Si tu es là, c'est une grâce encore cet après-midi. Dieu t'a fait grâce. Dieu est bon avec toi. Et ce n'est pas un hasard si tu es dans ce lieu. Pendant un moment, tu t'es dit que fallait mettre ta priorité sur ton travail, sur tes richesses, sur tes biens, sur ta famille, sur tellement de choses. Tellement de choses peuvent prendre notre temps. Mais l'Éternel te rappelle cet après-midi que ton âme un jour sera devant ton Créateur, qu'un jour tu seras devant ton Créateur. Et à ce moment-là, que feras-tu? Où iras-tu? Maintenant, tu peux te poser ces questions. Où iras-tu quand tu partiras dans la vie éternelle? Alors, je vais faire un appel, si vous voulez, un simple appel. Comme on l'a vu, la vie avec Dieu n'est pas compliquée. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, seulement le suivre. Et pour le suivre, il faut poser un acte, un acte. Et cet après-midi, si tu as envie, si tu sens dans ton cœur que c'est pour toi, si tu sens dans ton cœur que Dieu te parle et que Dieu veut que tu le suives, je te demande juste de lever ta main. De lever ta main. Et je prierai pour toi. Et je vais peut-être demander aux musiciens de monter. Et peut-être à Joël de prendre un chant. Il suffit juste de lever ta main. On a entendu un témoignage tout à l'heure où Dieu venait voir notre frère dans un moment de détresse. Il lui a dit, il faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Et en levant ta main, il suffit de dire, Seigneur, je te demande pardon et je veux te suivre maintenant. Alors si ça concerne quelqu'un, si ça concerne personne, c'est comme ça. Et si tu es dans ce lieu, surtout ne loupe pas ce moment. Ne loupe pas ce moment. Tu ne sais pas ce que sera fait demain. C'est tellement important. Alors lève ta main maintenant. Lève ta main. Amen.